Radio Capi. Oh, Capi. Le journal, Lévin Mouiga à la présentation.
Mesdames, Messieurs, bonjour. D'abord, l'ossature de ce journal. Beni Boutembo et Loubéron en proie à l'insécurité. L'évêque du diocèse affiche son inquiétude. Monseigneur Sikouli Paloukou s'est exprimé dimanche lors de la messe d'ouverture de l'année de formation 2024-2025. Il plaide pour la paix dans la région. Suppression de la taxe sur le certificat de contrôle technique obligatoire au Maniema. Une demande de l'Association africaine de droits de l'homme. Motif, la province du Maniema n'a jamais disposé d'un garage de véhicules pour le contrôle technique, affirme Azado. Révision ou changement de la Constitution, ce débat fait toujours couler beaucoup d'encre et de salive au pays. On en parle avec l'ambassadeur André Alain Atundu qui s'aligne sur la position du chef de l'État de changer la Constitution. Il est l'invité de ce journal. Encore une fois, bonjour. Insécurité grandissante dans la région de Beni Boutembo et Loubéro. L'évêque du diocèse affiche sa crainte, d'autant plus que cette situation affecte sérieusement le fonctionnement des grands séminaires du diocèse catholique de Boutembo-Beni. Monseigneur Sikouli Paloukou l'a fait savoir dimanche lors de la messe d'ouverture de l'année de formation 2024-2025. Pour ce faire, Monseigneur Sikouli Paloukou appelle les autorités congolaises à instaurer la paix dans les zones occupées par les rebelles, car les populations qui contribuaient auparavant au soutien des séminaires sont désormais déplacées. On l'écoute au micro de Guylaine Kassassia.
Ici à l'Est, nous sommes très préoccupés par cette rébellion qui perdure, qui conquiert de territoires. Pendant que à Kinshasa, en commençant par le président, il semble plutôt préoccupé par la révision de la Constitution. Ce n'est pas la priorité. C'est ça la grande difficulté. Parce que si nos paroisses étaient viables, s'il y avait la paix et que nos fidèles, tout le monde travaillait comme on a eu à travailler les années antérieures, on n'avait pas tous ces problèmes. Et ça devient alors, donc, du coup, plus difficile de leur demander même d'intervenir parce qu'ils vont le faire avec quoi. Et c'est ça notre grand problème. Nous avons un souci réellement. Nous commençons une année académique où nous avons des séminaristes qui viennent de presque tous les diocèses de la province ecclésiastique de Kisangani et de celle du Kivu qui sont ici. Ce que nous demandons, c'est qu'il faut qu'ils vivent ici dans des conditions paisibles.
Plus de 3000 déplacés de guerre en formation à Beni au Nord Kivu. Ils affinent leur savoir en métiers comme la savonnerie, l'agriculture ainsi que le broyage de maïs et de manioc dans les quatre communes de la ville. Le Bureau des actions humanitaires et de solidarité nationale de Beni est le bienfaiteur de ce programme car c'est lui qui les encadre. Nous allons justement écouter la chef de ce bureau. Tout le Grand Nord expliquait l'importance de cette intégration, estime l'Écopolé, est au micro d'André Kitenge.
Nous sommes en train de les intégrer dans la société parce qu'il n'y a pas d'assistance. Et le seul moyen de les encadrer et de les réinsérer dans la communauté, c'est de les apprendre quelques métiers pour enfin qu'eux-mêmes puissent se relever. Il y a un grand besoin d'ailleurs parce que là nous avons 3 vagues qui n'ont pas été assistées. Et durant ces 3 vagues-là, nous avons pu identifier au moins les 2 dernières vagues les plus récentes pour qu'on essaie un peu de les accompagner. Par exemple, actuellement, elles sont en train de faire la savonnerie. Et pendant qu'ils font la savonnerie, il y a leurs enfants aussi qu'on est en train de réinsérer dans les écoles. Mais avec la dernière vague, on essaie un peu de mener encore de plaidoyer pour qu'il y ait une assistance urgente. Actuellement, là, il y a plus de 3592 ménages dans la ville de Beni. C'est divisé en 3 vagues. Mais la plus récente, c'est 1722 ménages. Il y a ceux qui font la savonnerie et dans les 4 communes, on a pu placer des moulins pour moudre la farine. Il y a ceux qui sont en train de faire cela. Il y a ceux qui sont en train de faire l'agriculture aussi. Et il y a ceux qui sont dans les moulins. Et bientôt, là, nous allons commencer aussi avec la menuiserie pour d'autres.
Dans cette même dynamique de formation, 122 enfants vulnérables viennent aussi d'achever une formation en divers métiers dans la province de la Tchopo. Les stagiaires ont reçu des kits de réinsertion socio-économique et de brevets de fin de formation au cours d'une cérémonie officielle hier lundi à l'esplanade de l'INPP. C'était en présence de plusieurs invités, dont le représentant du gouverneur de province. Notez que ces apprentissages étaient organisés par l'Institut national de préparation professionnelle en collaboration avec la division provinciale des affaires sociales. Elle a également bénéficié de l'appui financier de l'UNICEF. Reportage signé Jacques Moukonkolé.
Parmi les 122 jeunes figurent 80 filles et 42 garçons. En 6 mois, ils ont appris divers métiers, notamment la menuiserie, la maçonnerie, la mécanique auto, la pâtisserie, la coupe-couture, l'esthétique et la coiffure. Selon le directeur provincial de l'INPP, Pierrot Luango, ce projet vise à lutter contre la pauvreté consécutive à la situation socio-économique du pays. Grâce aux compétences acquises, ces jeunes seront désormais utiles à la société.
L'encadrement de ces enfants à travers des formations, à travers des compétences qui seront transférées pour ce qui leur permettra d'être utiles à la société et utiles à eux-mêmes.
Pour sa part, le chef de bureau de l'UNICEF Kisangani a rappelé que c'est dans le cadre de son mandat, celui de promouvoir l'éducation aussi bien formelle qu'informelle, que l'UNICEF appuie ce genre de projet. Mokhtar Khan exhorte les stagiaires à un travail consciencieux.
Je vous exhorte à mettre en pratique des compétences, des connaissances acquises qui vous permettront d'être autonomes, de créer vos entreprises et de pouvoir contribuer à l'essor économique de la Tchopo dans vos domaines respectifs.
Les stagiaires ont promis d'exercer leur métier afin d'être utiles à leurs familles respectives et à la République. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Retour au secteur éducatif qui fait toujours l'actualité avec des marches pacifiques des enseignants. Marche organisée par la synergie des syndicats des enseignants de la RDC à travers plusieurs villes du pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier lundi ici à Kinshasa? Les manifestants qui se rendaient au Palais du Peuple ont été dispersés au croisement des avenues Sendwe et Kasavubu. Réagissant sur Radio Kapi, ces professionnels de la CRE demandent un salaire mensuel de $500 américains pouvant leur permettre de nouer les deux bouts de mois. Ils ont en outre invité les parlementaires à voter un budget conséquent en faveur du secteur de l'éducation. L'un d'entre eux s'est exprimé au micro de Miradi Fwengi.
C'était la marche générale des enseignants ici à Kinshasa et nous sommes venus au niveau des deux chambres pour déposer le mémorandum des enseignants. Dans notre mémorandum, nous revenons sur la prime de gratuité aux primaires qui doit être uniformisée. Nous revenons sur un nouveau barème salarial parce que n'oubliez pas que les enseignants ont demandé $500 comme minimum qu'on puisse leur donner pour bien faire le travail. Nous revenons également sur la retraite des enseignants et la suppression des zones salariales. Nous continuons à attendre les réponses du Parlement parce que n'oubliez pas que c'est la session budgétaire. Nous fondons notre espoir pour que les députés nationaux puissent voter un budget conséquent qu'on puisse accorder à l'éducation pour qu'il y ait une reprise effective du travail. Nous voulons protéger la gratuité de l'enseignement. Il y a des écoles qui ont commencé à fonctionner sur base de la prime des parents. Je crois que nous tous, nous devons protéger la gratuité de l'enseignement.
Notez que le bureau du vice-président de la Chambre basse du Parlement a promis de recevoir les manifestants ce mardi à l'hémicycle du Palais du Peuple. L'Association africaine de droits de l'homme pour la suppression de la taxe sur le certificat de contrôle technique obligatoire au Maniema, Azado la qualifie d'ailleurs de simple escroquerie. La position de cette association intervient au moment où la Direction générale des recettes du Maniema, DGERMA, projette le contrôle des documents auprès de tous les conducteurs des engins roulants. Selon le président de l'Azado, depuis la création de la DGERMA, la province du Maniema n'a jamais disposé d'un garage où les véhicules passent pour le contrôle technique. Yango Kachelewa soutient donc le recouvrement forcé, mais s'oppose à la taxe sur le CCTO. On l'écoute dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
Nous voulons accompagner le gouverneur dans toutes ses actions. Cependant, nous voulons interpeller sa conscience de ne pas être mal accompagné. Nous venons d'entendre qu'on va faire le recouvrement forcé de multiples taxes de dégèrement. Néanmoins, il y a des taxes telles que taxes de CCTO. Comment est-ce qu'on va percevoir la taxe de CCTO là où il n'y a pas même de garage? Il n'y a pas même de mécanicien. Depuis la création des dégèrements, au niveau de la province du Maniema, la province du Maniema ne détient aucun garage partout, même dans des territoires, mais on est en train d'escroquer les paisibles populations cet argent d'une manière malhonnête. Nous interpellons la conscience des directrices de la DGERMA, qu'elle soit prudente, quiconque se trouvera en train de recouvrer la taxe de CCTO ou soit utiliser les imprimés de valeur piratés. Ils seront devant la justice ou les dossiers est en cours.
De l'est du pays, passons dans sa partie ouest. La Fédération congolaise des droits de l'homme et développement s'insurge contre la justice à Boma, au Congo central. La FCDHD dénonce l'exécution d'une administration de la justice biaisée, selon elle, au sein du parquet près le tribunal de paix de cette ville. Dans une déclaration faite à Radio Okapi hier lundi, la fédération a révélé que cette instance a instauré un système mafieux dans l'appareil judiciaire de Boma, lequel se traduit par des arrestations et détentions à l'encontre des règles nationales et internationales en la matière, ainsi que par la perception des frais sans traçabilité. On écoute son coordonnateur Gabriel Makiesse au micro de Nana Pluriche Mambou.
Ayant braqué nos caméras de surveillance et de détection des antivaleurs sur le parquet près du tribunal de paix de Boma, nous, Fédération congolaise des droits de l'homme et de développement, FCDHD en sigle, avons constaté l'exécution d'une administration de la justice biaisée au sein des 10 parquets. Selon les éléments fiables à notre possession, ce procureur chef de parquet a instauré un système mafieux consistant à procéder aux arrestations puis libérations par ordonnance de levé après avoir perçu de l'argent des mains des justiciables, même dans les cas où c'est la liberté provisoire qui est sollicitée. Alors que les prévenus sont relaxés sur ordonnance de la main levée de détention, l'instruction de leur dossier se poursuit jusqu'à leur fixation devant les juridictions de jugement. Les études menées par notre équipe d'enquête démontrent que cette pratique fréquemment employée par ces procureurs constitue par lui un moyen d'échappatoire visant à masquer les traces des différentes perceptions opérées par lui auprès des justiciables.
Contacté, le chef de parquet près le tribunal de paix de Boma, Arthur Mulumba Batubenga, a promis de réagir dès qu'il aura le quitus de sa hiérarchie. Retour sur la série de reportages commencée hier lundi sur les leçons à tirer après le naufrage du MV Merdi le 3 octobre dernier à Goma. Radio Okapi passe aujourd'hui à une autre étape. Elle vous propose un reportage sur les engins flottant sur les différents biefs lacustres du lac Kivu, comme les bateaux, les barges et les pirogues motorisées qui sont pour la plupart de fabrication locale. Les uns sont en bois alors que d'autres sont fabriqués dans les chantiers au port de Kituku à Goma et au port de Bukavu au sud Kivu. Mais dans quel état se trouvent aujourd'hui ces unités de navigation destinées au transport des personnes et des marchandises? Notre reporter spécialisé en la matière, Gabriel Ouaminia, nous fait encore une fois découvrir ce monde. Suivez.
Outre les navires de la SNCC et ceux des IUCI, qu'on appelle communément canaux rapides, d'autres unités flottantes sur le lac Kivu, entre les différents biefs lacustres, sont pour la plupart des fabrications locales. Cette affirmation est celle des sources portuaires sous couvert d'anonymat. Les unes sont vétustes, alors que d'autres présentent visiblement une armature d'hélix, surtout celles dont les coques sont en acier. D'autres dateraient de l'époque coloniale, comme l'explique ici le président de la coordination coordination provinciale de la société civile, John Banyene.
On ne doit pas quand même observer ces histoires. Il y a des histoires qui circulent sur ces lacs, comme on appelle les bicocota. Ce n'est pas des bâtons de l'époque coloniale qui continuent à circuler. Et à bord, on y met les gens et les humains.
Un autre responsable qui a perdu 5 membres de sa famille lors du dernier naufrage survenu le 3 octobre dernier et qu'on a rencontré sur l'esplanade du stade de l'Unité lors de la cérémonie des derniers hommages rendus aux victimes du drame parle des cercueils flottant sur les lacs faute d'entretien et de la vétusté. De leur côté, les armateurs et propriétaires des bateaux restent toujours injoignables depuis les jours du drame. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Coup d'envoi hier lundi à Lubumbashi des assises portant sur la promotion du climat des affaires en RDC, défis, enjeux et perspectives. Organisé par l'Agence nationale pour la promotion des entreprises, ces assises qui vont se clôturer jeudi 31 octobre réunissent les opérateurs économiques du secteur privé, les autorités politico-administratives de différentes provinces du pays et autres. À cette occasion, les opérateurs économiques sont revenus sur les obstacles dans l'amélioration du climat des affaires, notamment la multiplicité des taxes, la concurrence déloyale, la tracasserie, la lourdeur administrative, la multiplicité des services à nos frontières. Ces différents pesanteurs font que certains investisseurs finissent par plier bagages pour aller investir ailleurs, ce qui a pour conséquence l'augmentation du taux de chômage, ont indiqué les participants.
Actualité internationale.
L'adjointe au maire de la commune de Bamenda 2 dans la région du nord-ouest du Cameroun a été tuée après avoir participé à la projection publique d'un documentaire sur les réalisations du président Paul Biya, âgé de 91 ans depuis son entrée en fonction il y a près de 42 ans. Madame Joko Frida a été enlevée à son domicile samedi par des combattants séparatistes présumés que les autorités qualifient de terroristes armés. Son corps sans vie a été retrouvé aux premières heures de ce lundi, selon les autorités locales.
L'invité.
Place à l'invité à présent, le débat autour de la révision ou du changement de la Constitution. L'ambassadeur André-Alain Atundu plaide pour l'avènement de la 4e République, s'alignant sur la position du chef de l'État qui a prôné pour le changement de la Constitution à Kisangani. André-Alain Atundu estime à travers une petite brochure qu'il a écrite que la Constitution actuelle ne correspond plus aux réalités congolaises. André-Alain Atundu Liongo est l'invité de Radio Okapi. Il est interrogé par Michel Kifindangoy.
Ambassadeur André-Alain Atundu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur du livre Plaidoyer pour une 4e République. Qu'est-ce qui motive votre démarche de faire un plaidoyer sur une 4e République?
Soyons modestes, ce n'est vraiment pas un livre, c'est une petite brochure. Après avoir vécu le trajet et l'histoire de notre pays depuis Sainte-Cité jusqu'aux dernières élections, il me parut nécessaire de réfléchir. Et dans mes réflexions, j'ai réalisé que la trame de toutes les tragédies que nous avons vécues a été inscrite déjà dans l'accord global et inclusif. Et donc aujourd'hui, puisque la Constitution actuelle est le fruit de cette ambiance marquée par la prépondérance des belligérants, eh bien, il m'a paru nécessaire d'ouvrir une voie de réflexion pour une 4e République basée sur les valeurs démocratiques, les enjeux pérennes de notre République.
Le président est à son deuxième mandat. Ce n'est pas une première. Hein. On en a vécu en 2012 avec le président Kabila. Vous étiez encore au FCC et vous aviez toujours prôné pour une révision de la Constitution. Et ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir disaient que vous voulez vous pérenniser au pouvoir.
Mais d'abord, je vous fais remarquer, vous faites bien de me le rappeler, que ma position a toujours été constante. Il est impossible que à une époque donnée, une génération donnée, résume tout le futur de l'histoire en sa capacité de réflexion. Les gens, et c'est assez prétentieux et même vaniteux de dire que les mesures que nous avons prises aujourd'hui ou préconisées aujourd'hui sont valables jusqu'à la fin des temps. Demain, que serons-nous? Si l'intelligence artificielle prend possession de la gestion du monde, devons-nous être gérés d'après les lois qui ignorait l'intelligence artificielle.
Mais est-ce que c'est vraiment ça la vraie motivation d'une telle démarche de réforme quand on sait que même les articles rudimentaires de l'actuelle constitution qui pouvaient concourir au changement du quotidien des Congolais n'ont bénéficié que de peu d'attention des gouvernants, notamment entre les articles 53 et 60 qui stipulent que les dirigeants ne peuvent pas s'approprier toutes les richesses du pays en privant le petit peuple, et pourtant c'est à quoi on assiste aujourd'hui.
Je ne voudrais pas entrer dans ce débat pour ne pas tomber dans le procès d'intention, parce que toute prétention juridique doit être étayée par des faits apodictiques. Et ça, c'est le rôle du juge. Est-ce que le président est dans son droit et dans sa compétence? Oui.
Mais seulement cette démarche intervient quand le président va vers la fin de son second et dernier mandat, et surtout que la partie Est est toujours occupée.
Je ne vois pas dans la Constitution une disposition qui interdit au chef de l'État ou à n'importe quel citoyen du reste de poser un sujet à référendum à un moment donné. Je ne vois pas. On ne néglige pas les autres problèmes. Si le président propose aujourd'hui de réfléchir sur l'avenir de la Constitution, cela ne veut pas dire qu'il a retiré nos troupes de l'Ituri et du Kivu.
Quel mandat accordez-vous au président de la République et comment envisagez-vous la gouvernance à multiniveau?
La durée du mandat d'un chef d'État, quel qu'il soit, ne doit pas se mesurer au nombre d'heures et d'années passées à la tête de l'État. Elle doit être déterminée en fonction des tâches. Mais moi, personnellement, je dis 5 ans, ce n'est pas suffisant. 10 ans, c'est le maximum. Alors, la deuxième question
concernait le type de gouvernance. La Constitution actuelle consacre la décentralisation.
La réponse à cette question se trouve dans l'historiogramme de notre pays. Et ainsi, ce mouvement de balancier doit tenir compte de la dynamique nationale et de l'ambition nationale.
Ambassadeur André Alain Atundu, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Junior Kamunga, à Jude Bilanda et à Debs Vita.